lu et approuvé.
Ce serait comme un mec qui lirait des livres à la radio et...
Pondérant de, bon, oui, de rappeler à nos chers auditeurs combien les oreilles sont évincées dès l'âge de 7 ans par une lecture individualisée et rendue silencieuse.
Arnache tes mots de créneau, ouais, DJ littéraire pour lecture collective.
Plus vous retrouvez seul face à vos livres, contactez.
Lu et approuvé. La bibliothèque sonore qui compte et raconte des histoires à vivre debout et dormir réveillé. Pas celle que quelques guignols nous racontent à longueur de journée, non. On n'en veut pas et on leur laissera pas le dernier mot.
Chaque semaine sur Canal Sud, nous vous lirons tout haut ce que les gens lisent tout bas.
Lady Stardust. Elle chantait depuis maintenant une heure et il me semblait que le monde tout entier s'était effacé sous mes pieds. Je planais dans un état d'extase et de fascination si extrême que plus rien autour de moi n'existait, ni le public noyé dans la fumée des cigarettes, ni les interminables cylindres de cuivre qui luisaient sous les spots, ni le whisky couleur d'ambre qui tremblait dans mon verre comme un arc-en-ciel dans un crépuscule anglais. Et Londres, là-bas, au dehors, existait-elle encore? Oui, sans doute, puisque sans Londres, il n'y aurait pas eu cette chanteuse, ni cette chanson, ni ce phrasé à mi-chemin entre l'obscénité et la pureté, entre le monde des vivants et celui des anges, entre noirceur et lumière, entre ténèbres et aurore. Lady Stardust sang songs of darkness and disgrace, chantait-elle. J'avais toujours compris le sens kabbalistique de ces mots, mais jamais je n'avais pensé que quelqu'un puisse les scander ainsi, à la manière prophétique d'une sorcière venue du futur. Quel étrange animal, quel monstre avais-je devant moi? Elle avait interprété d'autres chansons auparavant, toutes extraites de la galette la plus savoureuse de l'histoire du rock, « The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars ». J'avais entendu d'autres versions de tous ces morceaux que je connaissais par cœur et sur lesquels j'avais usé quelques saphirs pendant mon adolescence. D'autres qu'elles chantaient mieux, avec un tempo plus juste, une attaque plus tranchante, un sens du rythme plus affûté, mais jamais je n'avais vu quelqu'un, Bowie excepté, bien sûr, sur de vieilles cassettes vidéo volées à des amis anglais, jamais, donc, je n'avais vu quelqu'un mettre autant de sensualité démoniaque dans ses interprétations. Elle finissait sur ce morceau, Lady Stardust, ce qui ne me surprit pas. En termes d'érotisme morbide, de lubricité assumée, j'avais toujours pensé que ce titre était le sommet de l'album. Lorsque les derniers riffs se turent, figeant ma poitrine et mes reins dans l'apnée d'une trouble fascination, elle se déhancha jusqu'à l'avant-scène et jeta des baisers vers le public silencieux et subjugué, incapable d'applaudir. Tout le monde, dans la salle, semblait subir le même envoûtement que moi, et les spectateurs, comme hypnotisés, lançaient vers la scène des regards fixes et brillants, sans émettre le moindre son, sans prononcer la moindre parole. Elle reçut en princesse païenne l'hommage qu'on lui rendait, cette offrande de silence qui était le seul écho possible aux chansons qu'elle avait interprétées, puis recula, pas à pas, et disparut derrière les tentures d'un rideau pourpre. Pendant quelques minutes, la sensation de vide que son départ avait créé plongea le bar dans un malaise diffus, puis les conversations reprirent, on entendit à nouveau des verres s'entrechoquer. La fumée des cigarettes déploya ses voiles blancs dans l'air qui, pendant les chansons, était devenu transparent. Tout, peu à peu, reprit son cours normal. C'était le dernier numéro, mais je décidai de traîner un peu, dans l'espoir de la revoir. Peut-être viendrait-elle jusqu'au comptoir pour boire un verre ? J'avais une envie violente de savoir si, lorsqu'elle n'était plus Lady Stardust, elle répandait encore autour d'elle les mêmes ondes de sensualité et de fascination. Je commandai un autre whisky. Le serveur versait des rations généreuses et mon verre me plongea dans un état d'agréable griserie, prolongeant les sensations puissantes provoquées par le concert. Je restai là une demi-heure, peut-être plus, et je m'apprêtais à partir quand une main se posa sur mon épaule.
« Hé, Paul !»
s'exclama un type assez grand, très mince, à la peau basanée. Au son de sa voix, je compris qu'il me connaissait bien, et même très bien, mais dans la pénombre du bar, je ne pus le reconnaître.
« Terral ! Patrick Terral ! On était ensemble au lycée Champollion, tu ne te souviens pas ?»
La surprise faillit me faire dégringoler de mon tabouret. « Terral ! C'était un bon copain, oui, je l'aimais bien, mais... comment dire ? Une série de sentiments confus, contradictoires, m'assaillit. Si je devais être honnête avec moi-même, le premier de ces sentiments s'appelait la honte. Terral était un garçon à part, dans ses goûts d'abord, musicaux, vestimentaires, dans les choix qu'il avait décidé de faire pour sa vie d'adulte, dans sa maturité assumée, dans les rapports qu'il entretenait avec les professeurs et, surtout, dans ses choix sexuels. Dans la minuscule ville de province où nous vivions, on lui aurait pardonné de préférer Barry Lyndon aux Dents de la Mer, David Bowie aux Beatles, de s'habiller avec une élégance de dandy anglais, mais on ne pouvait pas accepter qu'il préférât les garçons aux filles. La honte, oui. La honte de me dire que, dans le silence de mon cœur et de mon corps, j'aurais dû être ami avec lui, et pas avec ces adolescents braillards et belles liqueux que je suivais lors d'inutiles virées en ville, ou pendant de pathétiques matchs de football. Terral. Je n'avais pas pensé à lui depuis des années, comme si j'avais effacé son image, après le lycée, d'un geste rapide, de la main. Son souvenir avait sombré dans le courant d'une vie banale, au milieu d'autres images, d'autres projets, d'autres désirs. Son apparition inattendue réveilla en moi une multitude de souvenirs et de sensations, la moins troublante n'étant pas, au creux de mes reins, une impression de chaleur et de vide qui répandait ses ondes dans tout mon corps. Il me prit dans ses bras et me serra contre sa poitrine, puis, devinant mon trouble, il s'écarta et me jeta un regard affectueux et indulgent, et je reconnus cette expression car, bien des fois, il m'avait regardé ainsi. Sans un mot, il désigna le tabouret auprès du mien, et je lui dis que j'étais seul, qu'il pouvait s'asseoir. Il s'installa, puis, un habitué, il héla le serveur et ce dernier revint vers nous avec deux whisky.
Bon alors, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu t'es décidé à traverser la Manche ?
Et pourquoi tu dis ça ?
Quand on était au lycée, tu me disais que les Anglais étaient tous des cons.
C'était vrai, mais je ne m'en souvenais pas. Nous éclatâmes de rire. J'ai pas mal changé, tu sais. J'ai pris goût aux bonnes choses. Aux vraies bonnes
voilà,
choses.
Voilà, la bonne heure. Alors, tu as pris goût à Bowie aussi ?
Oui. L'image de Terral amenant au foyer du lycée Ziggy Stardust ou Aladdin Sane et se faisant systématiquement refuser l'accès à l'électrophone me revint en mémoire.
Tu t'es mis à aimer ça quand ?
Je ne sais pas. Quand je suis parti au Maroc, je crois. J'ai habité là-bas pendant 2 ans.
magnifique. C'est un pays splendide, hein. J'y suis allé, pas longtemps c'est vrai, mais c'était bien, vraiment bien. Alors tu es venu ici pour écouter du Bowie?
Oui, je traînais dans le quartier, j'avais envie de boire un verre et j'ai vu l'affiche, un coup de chance.
Alors qu'est-ce que tu penses du spectacle?
Superbe, j'ai passé un très bon moment.
Merci.
Merci. Pourquoi merci?
Parce que je suis le patron du bar, et je suis celui qui choisit les artistes qui passent.
Je le regardais, bouche bée. Son expression ne changea pas, mélange d'assurance et de sérénité. Eh ben, bravo, tu choisis bien. La dernière chanteuse est extraordinaire.
La dernière chanteuse?
Oui, celle qui chantait du Bowie.
Ah oui, elle. Oui, elle a beaucoup de talent, en effet.
Elle a surtout tout compris à Ziggy Stardust.
Je l'ai un peu aidé, mais toi aussi, on dirait que tu as fait des progrès.
Comme je t'ai dit, j'ai pris goût aux bonnes choses.
Je suis content pour toi. Tu te connaissais si mal quand nous étions au lycée.
Je sais, je voulais ressembler à tout le monde. Et toi, tu étais différent. Tu avais le courage de le montrer.
Peut-être, mais c'était dur. Je suis parti à cause de ça. Londres est l'endroit idéal pour des gens comme moi. Les Anglais sont extraordinaires. Ils mènent dans un mélange de rigidité victorienne et de folie totale. Bon, j'ai opté pour la folie tout en respectant la monarchie constitutionnelle. Ça m'a réussi. Puis, côté rock, il n'y a pas mieux que Londres.
J'approuvais d'un signe de tête. Je me sentais merveilleusement bien, porté par une sensation de légèreté que je n'avais jamais éprouvée.
Et tu viens souvent à Londres?
Non. Tous les deux, 3 ans, je passe quelques jours, histoire de me changer les idées.
Et écouter de la musique.
Ouais.
Et quoi d'autre?
T'attends des révélations sur ma vie privée.
Mais bien sûr, quand deux vieux potes se retrouvent, c'est le sujet de conversation numéro 1.
Ben, ça va pas nous mener bien loin. Deux mariages, deux divorces, pas d'enfants. Je crois que je suis plus doué pour traîner tout seul dans les bars que pour la vie conjugale. Et toi?
Bah moi ça va, je vis depuis 4 ans avec un garçon merveilleux, j'ai vraiment de la chance, je suis amoureux de lui et il est près de moi. Bon, il est pas toujours très fidèle, mais je m'en fiche, je sais que je suis pas dans son cœur, que je sais que je suis dans son cœur. Et il respecte mes sentiments, donc bon.
Il parlait avec la nonchalance de ceux qui avancent un équilibre sur le mince fil de la vie.
Ça ne durera pas toujours, il plaît trop à d'autres hommes et à trop d'autres femmes. Mais bon, c'est pas grave. 4 années, c'est bien plus que je ne l'espérais au début. Et puis, il y a le bar, il y a Londres, il y a la musique.
Ses yeux noirs s'attardèrent sur moi. Je ne savais pas quoi lui répondre. J'avais l'impression d'étouffer. Il me sourit, avec cette expression d'indulgence qu'il avait déjà, au lycée, quand je refusais ses invitations ou ses propositions de sortie au cinéma. Puis son regard se détourna de moi et plongea vers l'entrée du bar.
Tiens, le voilà! Le voilà, tu vas faire connaissance.
Un jeune homme, extrêmement élégant, l'allure souple, dégagée, s'approcha de nous et posa sur les lèvres de Terral un baiser très léger. Puis il me serra la main et se présenta.
Hey, Peter.
Paul. Sa main, chaude et douce, s'attarda dans la mienne et son regard bleu m'observa avec curiosité.
Et vous connaissez Patrick depuis longtemps?
Oui. Nous étions au lycée ensemble.
Oh! Et vous êtes venu le voir à Londres?
Non, nous nous sommes retrouvés ici par hasard. Une brève lueur d'étonnement traversa ses yeux, puis disparut. Je compris très vite pourquoi beaucoup d'hommes et de femmes s'intéressaient à lui, comme l'avait dit Terral. Ses longs cheveux noirs, sa grâce animale, son léger maquillage, ses cils d'un noir de jais faisaient de lui une créature trouble et magnétique, hybride d'ange et de démon. Je le regardais, fasciné, et il s'en amusait, je le voyais bien. Terral observait la scène avec un sourire plein d'ironie.
Et alors, vous avez aimé le spectacle?
Oui, beaucoup. Beaucoup. Surtout la dernière partie, celle consacrée à Bowie.
Oh, ah oui, merci, c'est gentil.
Pardon? Que voulez-vous dire?
Tu l'as pas reconnu? C'est lui qui chantait tout à l'heure.
Ma tête se mit à tourner. Un vide brutal creusa ma poitrine. Je... Non, non, je ne l'ai pas reconnu, mais c'était vraiment... Les mots se refusaient à moi, j'étais pitoyable.
Non, ce n'est pas grave, non. Cela arrive souvent, très, très souvent. Je prends ça comme un compliment. Je vais chercher d'autres whisky, vous voulez bien ?
Je fus incapable de répondre, et Peter s'éloigna. Terral posa sa main sur ma cuisse et approcha sa bouche de mon oreille. Mon corps tout entier était paralysé, comme transformé en statue de sel sous l'effet d'un sortilège prononcé par une créature venue du royaume des ombres.
Si tu veux, tu peux passer la nuit avec lui, je crois que tu lui plais.
Mon cœur bondit dans ma poitrine et j'éprouvais à nouveau une sensation de désir, d'étouffement et de terreur. Je me levai et je pris la direction de la sortie, la démarche incertaine, écartelée entre l'attirance magnétique que Peter exerçait sur moi et les pitoyables frayeurs qui me tenaillaient. Avant de franchir le seuil, j'entendis Terral dire dans mon dos
« Dans le fond, tu ne te connais pas mieux aujourd'hui qu'hier. »
Je ne suis jamais revenu à Londres.
combat de jukebox sous la lune.
L'océan et les dunes brillaient dans la douceur de juin comme de vastes champs étoilés. On aurait dit le reflet parfait du ciel qui s'étendait au-dessus de nous. Rien ne traversait la plage. Pas de vent, pas de houle, pas de bruit. Juste un champ maïétique venu d'Angleterre, une invisible vibration qui avait franchi la Manche et déployé autour de nous sa folie et sa force, le rock'n'roll. On était 6, plus ou moins jeunes, plus ou moins cons, à deviner sa présence, mieux que ça, à l'invoquer. Il fallait qu'il soit au rendez-vous. On avait organisé un combat de jukebox sous la lune. Le Wurlitzer Bubble trônait au milieu de nous comme un navire issu des profondeurs de la mer. Phosphorescent, multicolore et mystérieux, un creuset de couleurs guimauve et fluo, un calice dans lequel nous apprêtions à boire le sang de nos héros. À force de nous engueuler les uns les autres, nous, les jeunes, eux, les vieux, nous, les modernes, eux, les anciens, nous, les adorateurs de Clash, eux, les prophètes de Led Zepp, on en avait eu assez et on avait décidé de jouer ça à la loyale. Un combat de jukebox, 3 gars dans chaque équipe et chacun choisit un morceau. Ceux d'en face votent en conscience. L'équipe qui a le plus de points emporte la mise. Bière gratuite pendant un mois et supériorité éternelle d'un camp sur l'autre. Les camps, parlons-en. Laissez-moi vous les présenter. Let me introduce you. D'un côté, mon père en personne et ses deux meilleurs potes depuis l'époque où ils écumaient ensemble troquets et balles de la côte normande avec leur groupe, The Lads. Papa Rock ? Ouais, je sais, c'est ridicule, mais tout le monde l'appelle comme ça depuis 40 ans, même moi. Je vais pas changer aujourd'hui, non ? Papa Rock, donc, tenait le manche de la guitare. Le maçon l'accompagnait à la batterie. Par un hasard étonnant, il était vraiment maçon dans la vie de tous les jours. La fausse vie, celle qui se passe pas sur scène ou avec les copains. La plupart des gens pensaient qu'il devait ce surnom à sa façon de jouer. Hypothèse pas idiote. Souvent, quand on l'écoutait, on se disait qu'il cherchait plus à casser des briques avec ses baguettes qu'à accompagner le groupe. Le troisième larron, on l'appelait l'arpenteur, facteur de profession, bassiste et chanteur de The Lads jusqu'au fond des tripes et de l'âme. Quand on le voyait, dans le pays, distribuait le courrier de sa démarche lente, traînante, épuisée, on se foutait de lui et on lui demandait si c'était le courrier de l'année d'avant qu'il nous amenait. Mais quand il montait sur scène, il se transformait en fauve. Il bondissait comme un jaguar et plantait ses crocs dans les chansons, avec un appétit sauvage et communicatif. Les soirs de spectacle, c'était lui la vraie vedette. Il avait une putain de bonne voix qui se glissait dans tous les morceaux, du plus cool au plus violent, avec une maestria et un feeling fabuleux. Papa lui avait souvent dit de se casser, d'aller tenter sa chance ailleurs, qu'il méritait mieux que le bar de la plage à Dieppe ou le bal des pompiers à Honfleur. L'arpenteur l'écoutait pas. Lui, il voulait jouer avec ses potes et pas quitter le pays. Déjà, pour l'amener en Bretagne, c'était toute une histoire. Alors vous imaginez, Paris, Toulouse ou Bordeaux. En face de ces vieux guerriers blanchis sous le harnais des Gibson, se dressait l'élite de la crétinerie adolescente, Ted, Bob et moi. Quand je parle d'élite, je me vante. On était ni plus cons ni plus malins que les autres, juste un peu trop sûrs de nous, et on voulait donner une bonne leçon à ces ringards. Les anciens et les modernes, les voraces et les coriaces, les Guinness et les Despé, s'étaient quand même mis d'accord sur un fondamental, que de l'anglais pour la baston musicale. Pour nous tous, le rock'n'roll avait franchi l'Atlantique dans un sens et n'était jamais reparti vers l'ouest. On écoutait Springsteen et Dylan avec respect, mais en cachette. Papa Rock avait poussé le vice jusqu'à épouser une Anglaise, et donc à faire de moi cette créature hybride, mi-ange, mi-démon, à moitié bacon, à moitié jambon, un franco-anglais. L'Anglaise, elle, nous avait quittés depuis longtemps. Elle avait toujours traîné la santé flageolante des filles d'Albion, la peau pâle des gens fragiles, les yeux fiévreux des éternels convalescents. La vie avec Papa Rock, les concerts et les bringues, les fêtes de 3 jours avaient fini de l'achever. Elle avait adoré ça, mais elle s'y était brûlée les ailes. Elle avait juste trouvé la force, dans un dernier soupir, de me sourire le jour de ma naissance et puis... Farewell, my lovely. On ne peut pas dire que papa m'ait vraiment élevé, ni donné une éducation. Il m'a laissé pousser comme un arbre, en taillant une branche par-ci, par-là, de temps en temps, en bêchant un peu, en arrosant parfois. Il m'obligeait à aller à l'école, mais il se foutait de savoir si je faisais ou non mes devoirs. La seule chose qu'il ne tolérait pas, c'était qu'on écoute, à la maison, d'autres morceaux que ceux qu'il choisissait. Forcément, ça pouvait pas durer. Pas durer du tout. Quand j'ai eu 15 ans, je lui ai déclaré la guerre. À partir de ce moment-là, on n'a plus été d'accord sur rien. Musicalement, je veux dire. Pour le reste, on s'entendait très bien. Le combat du jukebox sous la lune était donc l'apothéose, l'acmé de cette lutte oedipienne, vieille comme le monde, que les générations montantes mènent contre leurs aînés pour imposer leur choix. Papa Rock avait récupéré le jukebox, le Wurlitzer Bubble, chez un cafetier de Châteauroux qui avait fermé boutique après le départ des soldats américains. Il lui avait aussi acheté un gigantesque bar chromé et des kilomètres de miroirs. À cette époque-là, mon père bricolait tout et n'importe quoi. Après la mort de l'Anglaise, il ne trouva plus aucun plaisir à traîner dans les concerts ou à faire la fête. Il décida de rester à la maison avec sa guitare et son jukebox, son bar chromé et sa Guinness, ses potes, son chien, son vélo et moi. Il se prétendait vaguement brocanteur et, comme il avait le don de dénicher des lots ahurissants de vieux disques de rock, il en revendait pas mal à des Parisiens friqués qui passaient par chez nous le temps d'un week-end. Il gardait les meilleurs, of course, enfin ceux qu'il trouvait les meilleurs, ceux des Kings, de Bowie, des Stones, de l'anglais, toujours de l'anglais. Quand les CD débarquèrent pour remplacer ses vieux 45 tours, il bricola une boîte au fond du jukebox pour que je puisse y écouter ma musique, quand il n'était pas là, bien sûr. Et le Wurlitzer, ceint de ses auréoles roses et jaunes, devint pour moi la voix du rock'n'roll, une sorte de martien tombé du ciel dont la mission était de répandre la bonne parole. Mais ce qui est l'évangile pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Pour papa, le rock anglais était mort au moment où Bowie et les Stones avaient traversé l'Atlantique pour aller gratter des dollars chez l'oncle Sam. Pour moi, c'était tout le contraire. La musique, ma musique, était née à cette époque-là. Comment voulez-vous qu'on se mette d'accord ? Ce genre de baston verbal n'en finit jamais. D'abord parce que tout le monde a raison. Ensuite parce que, dans ce style d'empoignade, la mauvaise foi est totale, bestiale. Enfin, parce que c'est amusant de se prendre le chou pour des sujets comme ça et de s'envoyer à la gueule des titres de chansons ou d'albums, des noms de héros disparus, des références invérifiables. N'empêche qu'un jour, on en a eu marre et on a décidé de passer à autre chose, d'où le combat de jukebox. On aimait bien, tous, de temps en temps, tirer les câbles. On disait « la puissance » sur la plage, pour écouter de la musique et boire des canons au milieu des dunes, face à la Manche. Quand il avait fallu choisir un terrain pour la bagarre, on s'était tout de suite mis d'accord. Puis on avait pris une semaine pour sélectionner nos morceaux. Ted disait qu'il fallait que chaque titre soit une arme fatale, a lethal weapon, qui devait tuer l'adversaire, annihiler sa résistance. Bob et moi, on voyait un peu ce qu'il voulait dire, mais on n'aimait pas qu'il parle comme un intello et qu'il nous en mette plein la vue sous prétexte que lui, il avait obtenu son BEPC. Bob lui répondait qu'il préférait la méthode classique, coup de boule dans les narines et coup de pied dans les couilles. Tout ça, c'était des métaphores, bien sûr, vu qu'il n'y a pas plus pacifique qu'un vrai amateur de rock. Moi, je leur disais qu'il fallait qu'on soit malin. Pas choisir nos morceaux préférés, non, mais plutôt des titres légitimes. Des titres quoi ? A demandé Bob. Oui, légitimes, des chansons qui s'imposent d'elles-mêmes, évidentes, pleines d'énergie et sans concession, du rock pur. Ils avaient fini par comprendre et on avait fait le tri. Un bon tri, j'étais content, j'avais confiance, on allait gagner. Le soir du grand soir, on vend d'être tout à fait sous. Pour juger objectivement un morceau de rock, il faut avoir un coup dans l'aile, mais léger. Mon père tira au sort de sa blanche et innocente main de guitariste, dit-il, les ordres de passage. L'arpenteur attaquait le premier, puis venait le maçon, puis Ted, Bob, moi, et Papa Rock fermait les bancs. Je trouvais cet ordre un peu bizarre et, à vrai dire, ça puait le calcul et l'entourloupe. Impossible à prouver, bien sûr, mon père était trop malin. Alors j'ai pas insisté. Comme, en plus, je savais qu'on allait gagner, je me suis contenté de le regarder en souriant pour lui montrer, premièrement, que j'étais pas dupe, deuxièmement, qu'on allait les écraser. Le sourire qu'il m'adressa en guise de réponse fut le reflet du mien. Il m'envoya une canette, alluma le Wurlitzer et demanda à l'arpenteur de lancer son morceau. La fête pouvait commencer. Je reconnus immédiatement les premiers accords de One Get Full The Guy des Who. J'aurais parié ma mobilette que l'arpenteur aurait choisi ça. Quand il tournait avec The Lads, c'était son morceau fétiche, celui qui balayait tout sur son passage. Mon père disait qu'il le chantait aussi bien que Daltrey. Je lui répondais en me marrant.
Waouh, désolé. Pour sûr, tout pareil. Moi, je jouais comme Tonsen. Le problème, c'était le maçon, à la batterie. Il plombait tout.
Ça, je voulais bien le croire. Par contre, la version originale ne plombait rien du tout, au contraire. La chanson semblait avoir pris d'assaut le paysage, les dunes, le ciel plein d'étoiles et la vaste étendue de vagues grises. Une vraie chanson de guerre qui te fait te dresser sur tes jambes et partir à l'assaut de la connerie humaine. Au moment où Daltrey lâcha son dernier rugissement, la terre trembla sous mes pieds. Rien à dire, les gars. Respect total. Respect total. On vota tout de suite, à bulletin secret, comme dit la télé, pour éviter les embrouilles et les haines définitives. Les Who empochèrent deux de nos trois voix, ce qui était bien, et personne ne discuta. Le maçon enchaîna tout de suite. Ziggy Stardust, Bowie, les araignées de Mars. Tout ce monde interlope et splendide jeta son ambiguïté, sa douleur, sa violence contenue sur la plage déserte. La chanson sonnait si bien dans le Wurlitzer qu'on aurait cru que Ziggy s'était caché dedans et qu'il n'attendait qu'une parole de notre part pour se joindre à nous. Mais il faut croire que Ziggy était condamné à errer tout seul dans les étoiles pour l'éternité. Il ne récolta qu'une voix, la mienne. Mes potes, je le savais depuis longtemps, trouvaient Bowie décadent. Putain, ça veut dire quoi décadent? Enfin bref, on a les copains qu'on mérite. Moi, en tout cas, j'avais honte pour eux. Mais à la guerre comme à la guerre, il ne fallait pas se tromper de camp. C'était à nous d'envoyer la puissance. Train in vain, des Clash. On voulait tous un morceau des Magnifiques, on les appelait comme ça entre nous. Mais on s'était écharpés comme des fous pour en trouver un qui nous mette d'accord tous les trois. Finalement, avec le recul, je sais que ça a été une erreur de prendre celui-là. On aurait dû envoyer une de ces bonnes vieilles versions live de White Riot, tellement bourrée d'adrénaline, d'énergie et d'électricité qu'on reconnaît à peine la chanson. Train in Vain, c'était trop consensuel pour un combat rock. La chanson récolta une voix, une seule, et ça nous plaçait mal pour la suite de la bagarre. Ted, qui était pour l'égalité homme-femme, et qui traînait depuis des années une adoration et un béguin impossibles à assouvir pour Chrissy Hynde, jeta dans le Wurlitzer Middle of the Road. On lui avait dit que la mère Chrissy était américaine. Il s'en foutait. Les Pretenders, c'est pas british, nous avait-il répondu. Ça sonne pas anglais. Objectivement, il fallait admettre cet argument. Et puis cette fille a une classe tellement surnaturelle qu'on pouvait pas lui refuser une invitation à notre petite fête. Bien sûr, les vieux machos ne pensèrent pas comme nous et ne lâchèrent qu'une voix. Ça commençait à sentir le roussi pour la bleusaille. Dieu merci, mon tour arrivait, et j'avais l'arme fatale, Wide Horses, des Stones. Les ancêtres ne pouvaient pas ne pas voter pour ce titre-là. Jagger et Richards étaient des traîtres à leurs yeux, évidemment. Les US suintaient au travers du morceau de ses solos et de ses chorus comme le Jack Daniels suinte d'un tonneau du Tennessee, mais au final, cette chanson dépassait les frontières et les générations. Une main jetée entre deux âges, entre deux mondes, entre deux visions d'une même musique. Une synthèse, bordel. Une synthèse. Que dire de plus? Trois voix, c'était dans la poche. Je me demandais bien ce que Papa Rock allait nous mettre. J'allais jouer le jeu honnêtement, mais aucun de ces morceaux fétiches ne trouvait grâce à mes yeux. On disposait de 5 votes, ils en possédaient 3. Pour gagner, il devait faire carton plein. Dans mon petit cerveau, je me disais que l'espoir changeait de camp, que le combat changeait d'âme. Je trouvais ça très beau et bien formulé. Et je me suis dit que le rock me rendait poète. Quand j'ai entendu les premières mesures de Just Like Heaven de Cure, je suis tombé à genoux et c'était pas l'alcool. La voilà, oui, l'arme fatale. Comment le savait-il ce vieil animal? Le générique des enfants du rock. L'émission que j'allais voir en cachette et en faisant le mur le samedi soir chez Ted. Le sésame ouvre-toi de toute mon adolescence. Les interviews de Bowie, de Robert Smith, les backstage de Clash, des Stones, de Joy Division. Toutes ces nanas. Et tous ces mecs que tu admires et que tu idolâtres et qui viennent là pour te parler exactement comme s'ils étaient assis dans le canapé à côté de toi. Tout juste si elle ou il ne venait pas te donner une grande claque dans le dos et te dire « See you in London, guy, ok ?» J'étais barjo de cette émission, barjo. Les samedis soirs, je râlais jamais pour aller au lit. Mais une demi-heure plus tard, je galopais dans les dunes, direction la piole de Ted et à nous le rock'n'roll. Papa l'avait jamais su. Le soir, il était bien trop occupé à bricoler ses vieux tourne-disques. Mystère total. Comment pouvait-il connaître ce morceau et savoir ce qu'il représentait pour mes potes et pour moi? On a laissé la chanson dérouler sa magie, aérienne, élégante, racée, évidente. Les vieux ont récolté leurs 3 points, ont célébré leur victoire à leur façon, se sont foutus de nous. logique. Mais la soirée ne pouvait pas se terminer comme ça. J'ai profité d'un moment de tranquillité pour coincer mon père dans la cuisine. Je suis allé droit au but.
Et d'où tu connais Just Like Even, toi ?
Mais c'était le générique d'une émission que j'aimais bien.
Quoi ?
Mais oui, les enfants du rock. Ça passait il n'y a pas si longtemps, t'en as peut-être entendu parler.
J'ai failli m'évanouir quand il m'a dit ça, mais j'avais déjà perdu le combat de jukebox. Il fallait à tout prix que je garde ma dignité. Et je voulais qu'il me dise le fin mot de l'histoire.
Mais explique-moi un truc, papa. On n'a jamais eu la télé. Tu disais que c'était pour les bourges et pour les bonnes femmes.
Oui, c'est vrai. Mais bon, je vais t'avouer un truc que je t'ai jamais avoué. Bon, le samedi soir, quand t'étais au lit, je poussais la mobilette pendant 500 mètres, puis quand j'étais sûr que tu pouvais plus l'entendre, je filais plein gaz chez Vanda et ses sirènes.
Non.
Bon, si. Bon, et là, il y avait la téloche, et j'ai pris goût aux enfants du rock. Et même, je peux te le dire, maintenant que j'ai gagné, à toute la musique là que tu écoutes, là, ça te coupe la chic, hein.
Pour sûr, ça me l'a coupé. Vanda et ses sirènes. Le nom de ce bar faisait frémir toute la bourgeoisie normande. Je crois que ce qu'on y faisait était bien innocent. Quelques nanas pas trop mal roulées faisaient boire du mauvais whisky à des pauvres types qui s'ennuyaient. Et la gorgée n'était pas donnée. Peut-être que ça se finissait quelquefois ailleurs que dans un caniveau, mais rien dans tout ça ne justifiait qu'on alerte la brigade mondaine. Pourtant, les braves gens, comme on dit, considéraient Vanda comme la tentatrice la plus machiavélique du département. Il m'a fallu 2 ou 3 minutes pour bien réaliser ce que Papa Rock venait de me déballer. L'information irrigua lentement mon système nerveux, ma moelle épinière, mon cerveau, puis quand tout fut clair pour moi, je partis d'un énorme éclat de rire, incontrôlable, interminable, homérique. Les autres, les jeunes comme les vieux, pensèrent tout d'abord que j'avais trop bu. Puis, comme je ne pouvais pas m'arrêter, ils ont commencé à se faire du souci. Un de ces imbéciles, je crois que c'est Ted, a suggéré de me jeter dans la banche pour me calmer. Ça lui refroidira les méninges, a dit quelqu'un. C'est vrai, ça a eu de l'effet. Mais pas celui qu'il croyait. Je suis sorti de la flotte, frais et neuf comme un nouveau-né. Un vrai baptême. La vie me semblait magnifique. Jamais je n'avais vécu un moment aussi, comment dire, rock'n'roll. On a réécouté Just Like Heaven pour le plaisir, et la chanson, une fois encore, a bien mérité son titre. Bercée par la brise tiède de juin, couvé par l'œil goguenard et fraternel du Wurlitzer, grisé par la musique et par la bière, protégé par une mer d'étoiles, il nous semblait, à tous les 6, que la Terre était juste comme le paradis. Et peut-être même mieux.
Et approuvé. Bibliothèque sonore.
Oh yeah, rock'n'roll.
Rock'n'roll.
Même si c'est pas très rock'n'roll de couper une chanson comme ça sur la fin.
On la remettra après.
Ah.
Alors ben, ce soir, Bernard nous a lu Rock'n'roll with me. Voilà. Tu veux déjà dire quelques mots dessus ?
Oui, ben, ce sont des nouvelles qui sont nées de, on l'aura compris, d'un amour immodéré, irraisonné et mal réprimé du rock'n'roll. D'une certaine époque du rock'n'roll, pas en rajouter, les morceaux parlaient d'eux-mêmes. Puis d'un amour de la littérature et des nouvelles, qui est un genre qui est peut-être moins bien considéré en France que dans des pays anglo-saxons, par exemple, ou dans d'autres pays, mais qui est un genre à part entière et qui présente beaucoup d'intérêt, en particulier sur des formats radiophoniques comme celui que vous proposez. Et quand il se marie avec la musique, je trouve que le complément est souvent très heureux. Donc voilà, je suis très heureux d'avoir pu faire lire ces nouvelles qui
ont
un papa, moi, et qui serait content de trouver une maman sous forme de maison d'édition. Voilà, et donc à bon entendeur,
c'est marrant parce qu'il y a déjà les petits, mais il n'y a pas les parents.
Voilà, il n'y a pas la maman, il manque la maman. Et voilà, donc oui.
Tout est possible.
Je l'espère.
Voilà. Bah ok, bah merci beaucoup.
Et merci à vous, merci de m'avoir invité. C'était super de venir vous rendre visite.
Et on espère t'entendre de nouveau à l'antenne rapidement.
Je...
36 ans et demi, bon.
Voilà, ça fait longtemps que j'attendais et je peux attendre encore quelques jours, il n'y a pas de problème.
Bah voilà, c'était lui approuvé.
Lui a prouvé, mais on s'était dit qu'on allait repartir plutôt toutes les deux semaines. Au final, la semaine prochaine, on a aussi une lecture et pas mal de bouquins intéressants sur la table de chevet en ce moment. Donc je pense que là, il y en aura les quelques mercredis prochains, on sera à l'antenne.
Voilà.
Donc voilà, des dernières émissions, vous pouvez aller sur le blog de l'émission qui est luetapprouvé.noblogs.org ou sur le site de Canal en tapant Lu et Approuvé.
Canal Sud.
Et voilà, puis n'hésitez pas, hein, comme toujours, à envoyer un petit message, proposer vos bouquins, venir lire des textes aussi avec nous à la radio. Voilà, comme vous voyez, donc ce soir on a rencontré Bernard et c'était chouette et on a envie que cette émission aussi puisse être ouverte à qui veut venir.
Donc bienvenue. Voilà. Donc bienvenue. Et à la semaine prochaine du coup pour la prochaine. Salut, bonne soirée.
Salut.
Au revoir, merci.
Qu'est-ce qu'un livre si nous ne l'ouvrons pas ? Un simple cube de papier et de cuir avec des feuilles. Mais si nous le lisons, il se passe quelque chose d'étrange. Je crois qu'il change à chaque fois.
A better world, a better world, a better world, a better world.